Bonjour à chacun. Daniel vient juste de nous lire le dernier passage en Marc. Un épisode de guérison. Et puis une recommandation de la part de Jésus, assez surprenante. Il dit... ne le dites à personne, hein, n'allez pas raconter ce que vous avez vu. Alors je propose ce matin un deuxième récit aussi dans l'évangile de Marc, un deuxième récit de guérison. Et on va retrouver cette recommandation que Daniel a lue tout à l'heure. Jésus dit à nouveau la même chose, ne le dites à personne. On va lire ensemble le texte qui se trouve dans Marc, au chapitre 7.
La mer de Galilée, en traversant le territoire de la Décapole, on lui amène un sourd qui a de la difficulté à parler et on le supplie de poser la main sur lui. Il l'emmena à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha, ouvre-toi !» Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il leur recommandait, plus il proclamait la nouvelle. En proie à l'ébahissement le plus total, il disait « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. »
La guérison du sourd muet. Alors la scène, on est en Décapole, on est à l'étranger. Jésus poursuit sa route. Les personnes présentes, Jésus, la foule, le sourd muet. Et en arrière-plan, on le verra plus tard, Dieu et le Saint-Esprit, l'initiative de la rencontre. Précédemment, avec Daniel, c'est la personne qui demande la guérison à Jésus. Ici, on, un nom anonyme, l'initiative ne vient ni du malade, ni de Jésus, comme c'est parfois le cas, on l'amena à Jésus. Un on indéterminé, les disciples ne sont pas mentionnés. Un on toutefois bienveillant à l'égard de l'infirme, parce qu'il demande à Jésus d'imposer les mains. Ce on implore une intervention, et le but évidemment c'est la guérison. Ce on, il est bienveillant à l'égard de Jésus, et ce n'est pas toujours le cas. Il ne cherche pas à lui tendre un piège, il y a un grand respect et une considération. C'est la deuxième intervention de Jésus ici, auprès d'un païen. La première, vous vous souvenez sûrement, c'est dans Marc avec la syro-phénicienne. Qui est ce sourd muet? On ne sait rien, son prénom n'est pas donné, c'est un anonyme. On sait juste qu'il est sourd de naissance et que certainement quand il parle... quand il essaye de parler, la seule chose qui sort sont des gémissements. Sa foi, on n'en sait rien non plus, il ne se jette pas aux pieds de Jésus, il n'y a pas de manifestation physique de sa foi, il se laisse faire, il est passif. Alors, son infirmité explique certainement son mutisme, mais on pourrait déjà extrapoler un petit peu là et se dire qu'il n'y a pas que les sourds physiques. Nous sommes parfois bien sourds lorsqu'on n'entend que notre propre voix, notre propre raisonnement. Mais je m'égare, restons concentrés sur notre anonyme, sur notre sourd muet. L'attitude du sourd muet, elle contraste avec celle de Jésus, qui va entamer, dès le début, une série de gestes. Le langage de Jésus. Il va, sans parole aucune, dans le silence, Il va opérer une série de gestes. Alors l'homme est sourd-muet, mais il n'est pas aveugle. Il va y avoir un long silence avant que Jésus prononce la parole, le mot libérateur. Le week-end dernier, on était en formation et Michel Sommer faisait remarquer des fois l'absence ou le peu de silence dans nos cultes. Là, il y a silence. Silence quand Jésus prend le sourd-muet et le met à l'écart. Il le coupe de la foule, il le coupe de ce « on ». Il le prend et il le met à l'écart. Quand Jésus se met à l'écart, on l'a vu avec Daniel tout à l'heure, souvent c'est pour prier. Et même si le sourd-muet, il est peut-être païen, on ne sait pas, il a certainement compris que si Jésus le met à l'écart, c'est pour quelque chose de spécial. Silence. Silence lorsque Jésus touche l'infirme. Il y a quelque chose de thérapeutique dans le geste. Ça m'a fait penser quand je vais voir le médecin et puis que le médecin me touche, me demande là où j'ai mal, des gestes significatifs, sur quelle partie je dois intervenir. Quelque chose de thérapeutique. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la création dans ce geste. Quand l'évangile ne peut pas ou ne peut plus passer par la parole, le geste intervient. D'ailleurs, les détails du geste que Jésus fait sont repris dans les mots de guérison qu'il prononce à la fin. Les oreilles s'ouvrent, la langue se délie. Le malade, lui, est passif. La communication, elle ne va qu'en dans un sens, mais le sourd comprend certainement ce que Jésus est en train de faire. Il se laisse conduire, il se laisse toucher, il se laisse faire. Alors, est-ce que nous, on est toujours capable de nous laisser juste tout simplement faire par Jésus? Mais ne nous égarons pas, revenons vers cet anonyme. Jésus lève les yeux au ciel, il gémit. Dans tout le Proche-Orient, en fait, le fait de lever les yeux au ciel était compris comme une attitude de prière. Le sourd-muet, certainement, comprend cette posture. Dans son face-à-face avec cet homme, Jésus se tourne maintenant vers un tiers, il se tourne vers Dieu. Et maintenant, il y a l'homme, il y a Jésus, il y a Dieu. Jésus est en train d'ouvrir dans une autre dimension la relation avec le sourd-muet. C'est la suite logique de sa démarche de guérison, de sa démarche thérapeutique. Dans l'Ancien Testament, Dieu, c'est celui qui guérit. Et donc, logiquement, chronologiquement, eh bien ici, avant le miracle de la guérison, il y a la prière. Et on a là pour nous, peut-être me disais-je, un exemple. Sans Dieu, pas de réel accompagnement spirituel. Le regard compatissant, le silence qui écoute, la lumière qui discerne, la parole qui soulage, tout cela prend tout son sens avec Dieu. Et oublier cela peut peut-être nous exposer à l'orgueil. C'est la première fois ici que Jésus prie pour et devant un païen. Jésus-Christ, l'intermédiaire. Car oui, le véritable face-à-face qui attend le sourd-muet, ce n'est pas celui avec Jésus finalement. Le véritable face-à-face qui attend le sourd-muet, c'est celui avec Dieu. Jésus est en train de préparer le face-à-face avec Dieu. Et quelle prière Jésus fait? Déroutante, il gémit. Telle est donc l'unique prière de Jésus. Il gémit. Devant le sourd, il gémit, seule et unique fois d'ailleurs qu'il fera ça. Car rappelons-nous, sur la croix, c'est un cri qui sort. Là, il gémit, une prière qui apparaît démunie, nue, fragile, un simple gémissement. La prière pauvre de celui qui ne trouve plus les mots, qui ne trouve plus les mots dans sa souffrance. Un gémissement, la prière du peuple aussi, du peuple d'Israël au temps de l'esclavage. Un gémissement, c'est sans ambiguïté. La souffrance, j'ose dire, à l'état pur, à l'état brut. Un cri cherchera l'oreille humaine, le gémissement, lui, cherche quoi ? Il n'a même plus la force de chercher l'oreille humaine. Le gémissement cherche Dieu. Il existe des cris que Dieu n'accueille pas, on le sait, c'est les cris de révolte, les cris de vengeance, les cris de colère. Mais les gémissements, alors ? On peut raisonnablement penser que Dieu les entend. Je pense que Jésus formule à travers ce « Il gémit » sa deuxième prière. Pour moi, la première prière que Jésus a formulée, ça a été son silence. Et si le sourd avait prié, comment l'aurait-il fait ? En silence. Si le sourd avait prié, il n'aurait pas fait autrement, il aurait gémi. Lorsque Jésus se met à gémir, il le fait devant un homme qui ne sait faire que cela. Et ça veut dire que là aussi, nous, on a un modèle à imiter. Intercéder, c'est entrer dans le langage de l'autre, dans la souffrance de l'autre, dans sa façon de s'exprimer. Pourquoi ? Pour pouvoir exposer cette personne à Dieu. Belle leçon d'intercession pour nous. Mais ne nous égarons pas, revenons vers notre sourd. Ce sourd muet voit arriver quelque chose d'incroyable. Il n'aurait jamais demandé ça pour lui-même. Il va voir arriver le miracle. Le miracle que quelqu'un d'autre aura demandé à sa place. Et ça, c'est pas rien. L'exaucement, fin de l'histoire. On verra que pas tout à fait en réalité. L'exaucement, c'est pas la fin de l'histoire. C'est peut-être même d'ailleurs que le début. L'exaucement se fait lorsque Jésus fait cette prière qui rejoint celle intérieure du sourd et qui vient la porter vers Dieu. Nous sommes exaucés en Christ. C'est cela que signifie prier au nom ou dans le nom de Jésus. Ça veut dire qu'on dépose notre prière dans celle de Jésus pour la confier, l'abandonner, et Jésus l'inclut dans la sienne et la dépose au Père. Une belle leçon de prière pour nous. Ephata, ouvre-toi. Jésus parle au sourd muet avec le langage de Dieu. J'ai découvert en étudiant ce texte que Ephata, c'est un mot araméen qui a deux sens. Un sens passif et un sens actif. On n'a pas trop ça en français. Le Ephata, c'est déjà le « ouvre-toi ». Action de l'homme, sois, réfléchis, ouvre-toi, toi. Et le Ephata, c'est aussi l'action de Dieu, sois ouvert, qui est passif, sois ouvert par Dieu. L'araméen dit à la fois, à travers ce Ephata, ce qui revient dans la part de l'homme et ce qui revient de la part de Dieu. Ses oreilles s'ouvrirent. Et aussitôt, sa langue se délia. Un truc totalement incroyable. Cet homme passe d'une vie passive à une vie active. J'allais dire, les choses ne sont pas faites à moitié. Il devient sujet, il parle. Et Marc nous dit même quelque chose de fou. Il dit, il parla correctement. En précisant ça, Marc précise certainement le point final du miracle. Et je me suis demandé, mais où est allée la première parole de cet homme guéri ? À qui a-t-il adressé sa première parole ? Alors le texte ne le dit pas, hein. Mais on peut raisonnablement penser que ses premières paroles sont montées vers Dieu, signe de reconnaissance. Et Jésus dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait ? Vous vous souvenez ? Il retourne vers la foule. Laissant désormais l'homme tout à Dieu, avec Dieu, en tête à tête avec Dieu. Et là aussi, on a peut-être quelque chose à imiter dans notre accompagnement spirituel ou dans notre accompagnement à nos proches. À un moment donné, ne faudrait-il pas laisser la personne se retrouver en tête à tête avec Dieu et nous effacer ? Là, dans un écrin de silence, un homme nouveau prie. Laissez la place nous effacer. Mais ne nous égarons pas et revenons à notre sourd-muet. Seul à seul avec Dieu, Jésus repart vers la foule et donne cette recommandation, n'en parler à personne, comme dans le texte précédemment lu par Daniel. Alors là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose, on ne peut pas reprocher à la foule de vouloir crier la bonne nouvelle qu'ils ont vue. On ne peut pas, c'est naturel. Ils ont vu un miracle. Ils disent des bonnes choses, il fait bien toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. Quoi de plus naturel que de vouloir partager une bonne nouvelle ? Alors, dans ce, il leur recommanda de n'en parler à personne. Que peut vouloir dire Jésus en ce sens-là ? Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Je me suis plutôt focalisée sur une chose. N'en parlez pas à personne. J'ai compris. Ne parlez pas trop tôt, peut-être. Prenez un peu de recul avec ce qui vient d'arriver. Méditez ce miracle et les bouleversements que ça va opérer dans la vie de cet homme. Prenez le temps de digérer pour comprendre jusqu'où sa vie a été transformée. Au-delà de la guérison extérieure, d'ailleurs, prenez le temps de réaliser la guérison intérieure. L'interdiction de parler, d'ailleurs, elle n'est pas définitive, elle met juste en garde. Pour parler correctement, il faut déjà peut-être avoir entendu correctement et compris. Avons-nous toujours assez de recul pour dire aujourd'hui le miracle auquel nous avons assisté ? Alors, que retenons-nous ? Et si une part de l'essentiel de ce miracle, c'était pas aussi le gémissement de Jésus ? Je m'explique. Je me suis dit, nous ne savons pas prier. Et ici, le Christ nous apprend une façon de prier. Oui, j'ai découvert en étudiant ce texte que ma prière pouvait être un gémissement. Et voilà ce que raconte aussi ce miracle. Nous gémissons parfois. La création entière gémit. Et au cœur de ce gémissement se fait entendre un autre souffle, celui de l'Esprit. Ce que Jésus a fait avec le sourd-muet, ce gémissement-là, le Saint-Esprit le fait aujourd'hui pour nous. Le Saint-Esprit vient à notre secours dans notre incapacité de prier. Mais quand parlerons-nous ? Ne nous précipitons pas. Laissons-nous le temps, comme Jésus nous y invite, de relire notre vie, de découvrir les signes, les miracles du Père, le Père discret, caché, pour ne pas nous imposer son amour, nous porte au quotidien. Et oui, prenons le temps de regarder derrière nous, à travers la foule, à travers les autres, à travers les anonymes, à travers les « on ». N'avons-nous pas été parfois, nous aussi, conduits au Christ ? Et j'irai même plus loin, n'avons-nous pas parfois été ces « on » qui avons conduit au Christ ? Dieu est à l'œuvre. Mais ne nous égarons pas. Revenons à cet anonyme pour qui la joie est complète et la guérison est parfaite. Oui, lorsqu'il aura digéré et compris le mystère de l'amour de Dieu pour lui, alors il parlera. Ephphatha, sois ouvert par Dieu. Alors, je nous souhaite de trouver sur nos routes des anonymes qui nous portent quand nous en avons besoin, qui nous portent au Christ. Je nous souhaite d'être, quand il le faut, c'est on qui portons au Christ les personnes qui en ont besoin. Ephphatha, sois ouvert. Et surtout, laissons-nous sans aucune honte la possibilité que notre prière soit un simple silence, un simple gémissement, lorsque c'est nécessaire. Faisons de la place au silence dans nos rencontres avec Dieu. Amen.